Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Seule la lecture avec une économie de moyens, juste ce volume dans ma main, crée des rapports neufs et durables entre les choses et moi. Cet extrait de Tout compte fait, c'est signé Simone de Beauvoir. Il n'y a pas de doute, vous êtes sur Canal M, c'est l'émission. Un livre découvert qui commence, animé par Clotilde Seille.
La table des matières.
Alors aujourd'hui à l'émission, je vais avoir le plaisir de m'entretenir une nouvelle fois avec Gérald Cousineau. Ensuite, un plaisir aussi celui de recevoir, j'allais dire enfin, parce qu'on a eu une ou deux tentatives, mais c'est Abla Faroud qui vient nous rendre visite et qui est déjà en studio. Ça va bien, Abla?
Ah oui, bien sûr, je suis là.
Et puis je vais aussi recevoir Marie-Christine Morat, qui est une habituée maintenant.
Ben oui.
Une habituée des cabines parce qu'elle est bénévole et elle lit, et elle en lit des bouquins, mes amis, et aussi une habituée de cette émission parce qu'elle vient régulièrement pour nous partager quelques-unes de ses lectures. On fera aussi un petit peu de bande-annonce. Je vous présenterai un livre de Delphine Renard que Nicole Châtelain va venir nous présenter la semaine prochaine. Aussi, je vous parlerai de Francine Ruel qui devrait venir aussi nous rencontrer assez rapidement. Et puis, quoi d'autre? Il y aura bien sûr des titres en rafale. Il y aura aussi cette rubrique que j'aime bien qui s'intitule « Des nouvelles et des livres », et je vais revenir sur le drame des émigrants qui meurent en mer, notamment au large de Lampedusa en Italie, ce qui m'a donné envie de vous reparler de ce livre de Laurent Godet qui s'appelle Eldorado, qui est un de mes 10 livres préférés à moi. D'ailleurs, je reviendrai aussi sur cette liste de Pierre Foglia. Vous savez que Pierre Foglia a pris sa retraite et sa dernière chronique portait notamment sur la liste non pas des envies de Grégoire Delacour, mais de vos livres préférés. Mais j'aurai l'occasion à un moment donné de revenir plus longuement là-dessus. Pour l'instant, on se concentre et on retrouve Gérald Cousineau dans quelques secondes.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
Bonjour Gérald.
Bonjour Clotilde, bonjour madame.
C'est à Abla peut-être.
Ah bonjour.
À Abla, bonjour. Mais j'en ai deux madame Gérald.
Oui, j'ai dit madame.
On avait toutes compris madame. J'ai dit non, mais attendez. C'est ça, là, j'ai une sainte trinité. Là. Nous sommes les trois grâces au studio et Gérald au téléphone. Comment ça va, Gérald?
Oh, ça va bien, ça va occuper, ça va bien.
Bon, et en plus, occuper, mais entre deux, vous trouvez toujours le moyen de lire beaucoup?
Toujours, le travail va passer après la lecture.
Ça, j'aime ça.
Mon patron n'aime pas, il n'est pas là, alors... Bah.
Je n'osais pas le dire. Et Gérald, vous nous parlez d'un livre de David Lodge?
Oui, David Lodge, quelques mots d'abord sur l'auteur. C'est un écrivain britannique, mm-hmm. né en 1935, donc c'est un tout jeune homme, hein, 80 ans à peine. Ben, c'est un monsieur qui, dès 1987, a abandonné l'enseignement. Il était professeur à l'Université de Birmingham. Pourquoi? D'abord parce qu'il voulait se consacrer à l'écriture et aussi, vous me voyez venir peut-être,
oui.
parce qu'il avait déjà des problèmes d'audition. Alors, la vie en sourdine, on reste dans cette idée-là. La vie en sourdine, vous savez que le titre anglais, c'est « death sentence », littéralement « sentence de surdité ». Or, en anglais, il y a une homonymie frappante entre « death », surdité, et « death », mort.
Mais la mort, c'est ça, hein?
Mais en français, ça ne joue pas.
Ah.
Alors, le titre en français, « la vie en sourdine », bon, on a une idée de surdité, mais mm-hmm. en anglais, le titre est beaucoup plus éloquent.
Ah oui, en effet, oui.
Alors, c'est un roman qui est écrit sous forme de journal intime, et c'est très curieux, on va passer du « je » au « il ». On va revenir au « je ». Alors, le narrateur, c'est Desmond, un ex-professeur de linguistique, donc il est retraité, il est à moitié sourd, hein,
oui.
bien sûr. Sa femme, possède une boutique de décoration. C'est la coquille de la ville, ville d'ailleurs qui n'est jamais nommée. Il y a le père de Desmond, un vieux monsieur un peu au bougon, là, qui vit dans son pavillon londonien. Il y a Alex, une jolie blonde, une étudiante, qui demande un jour de vernissage à Desmond de l'aider à rédiger sa thèse. Mais Desmond n'entend pas parce qu'il y a trop de bruit. Alors lui, poliment, il va dire « très intéressant ». Alors, ça se résume quasiment à ça, ce vernissage-là. Alors, c'est un livre où on passe constamment du comique au tragique. Le comique, malheureusement, c'est un peu à cause du narrateur qui parle de tous les quiproquos amusants oui. que cause sa surdité. Et là, il va faire un parallèle intéressant entre la surdité et la cécité. Il va dire la surdité est comique alors que la cécité est tragique. Il va dire les aveugles sont touchants. Bien sûr, ils attirent la compassion. Mais quelle personne sourde attire la compassion? Qui n'a pas souri devant une personne sourde à qui on doit répéter 10 fois la même chose?
Qu'est-ce que vous en avez pensé de ça, vous?
Moi, finalement, c'est la partie que j'ai jugée la plus intéressante dans le livre. Il y a bien sûr cette espèce de relation plus ou moins malsaine avec Alex. Je ne vous donnerai pas d'ailleurs la fin. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est les rapprochements entre surdité et cécité. Mm-hmm. Étant moi-même, bien sûr, une personne handicapée de la vue, j'étais curieux de savoir ce qu'une personne sourde peut dire. Okay. Or, cette personne-là, le narrateur, préfère encore sa surdité à la cécité.
Ah oui, hein?
Malgré tout. Ouais, mais ouais. Je disais donc qu'on parle du comique au tragique. Le comique, c'est aussi les rencontres incroyables entre le père et le fils, parce que le père, je ne vous l'ai pas dit, mais est aussi sourd que son fils. Mais il pense ne pas l'être. Alors, il plaint son fils d'être sourd, alors que lui, il est autant. Alors, ça fait des scènes assez comiques. Et que penser des fêtes de Noël où toute la famille se réunit alors que le narrateur s'ennuie à mourir et il entend à peine ce qui s'y dit. Alors, ça, c'est vraiment la partie comique. Mais il y a une partie également qui est plus tragique. Je pense, entre autres, à ce voyage en Pologne que fait le narrateur pour y prononcer des conférences. Or, il s'arrête à Auschwitz.
Ah oui.
Et là, je dirais que ce sont des pages parmi les plus belles du livre, des pages vraiment douloureuses. Là, on n'est plus dans la rigolade, on n'est plus dans l'ironie du tout, on est dans le tragique. Et également, il y a une très belle scène, et là, on peut supposer que c'est grandement autobiographique, où le narrateur dit vivre une expérience extraordinaire, et qu'est-ce qu'il fait? Il aide une préposée d'hôpital à changer la couche d'un monsieur de 89 ans qui est son père.
Oh.
Alors, ce passage-là est très beau.
Oui.
Donc, vraiment, il y a ce passage content du comique, même quasiment de la farce à la tragédie.
C'est ça, parce que je lisais justement dans une critique aussi un lecteur comme vous qui disait que oui, on parle effectivement beaucoup de la surdité qui est très très bien décrite et tout ça. On fait le rapport avec la cécité, mais la description de la vieillesse et de la déchéance par rapport à son père est absolument phénoménale.
Il y a des thèmes qu'on retrouve souvent. Bon, j'ai quand même pas mal lu David Lodge. On retrouve souvent, par exemple, la vie universitaire. Et vraiment, c'est un ancien universitaire. Il en parle beaucoup, même dans ce livre. Il parle de la vie, bien sûr, relations familiales, évidemment. Il parle de la mort, et parce que le père, dans le livre, est atteint de la maladie d'Alzheimer.
Okay.
Non seulement il y a la surdité, mais il y a la maladie d'Alzheimer qui se profile à l'horizon, et d'ailleurs, il meurt à la fin du livre.
Oui. Et écoutez, est-ce que c'est un roman autobiographique que vous,
il est
en dehors de la surdité? Parce que
d'ailleurs, il y a une toute petite critique ici où on dit comique, tragique et merveilleusement autobiographique. Eh bien, ça, c'est quasiment la partie que je préfère également. Là où on sent que c'est pas de l'invention.
Non, c'est
vraiment la vie de David Lodge lui-même. Il va dire, il va raconter son enfant dans le quartier imaginaire de Brickley. Or, Brickley, c'est quoi? C'est en fait le quartier de Brockley. Hein, il a changé une voyelle, c'est tout.
D'accord.
Donc, il y a vraiment son enfance dans cette banlieue de Londres. Il y a plein de choses comme ça qu'il faut qu'il nous ramène constamment au vrai David Lodge. Et c'est ça que j'aime chez lui.
Qui est Fred dans le livre?
Fred. Ah, c'est Alex. Je crois que c'est Alex. Je peux me dire, est-ce que je dis une bêtise? Ça m'arrive souvent. Hein. Mais est-ce que Fred
c'est pas grave.
Est Alex?
Non, mais je vais vous dire pourquoi je demande, parce que j'ai un très, très court extrait. À un moment donné, donc c'est lui qui parle et qui dit « Ma pile est morte, ai-je dit ?» Et voilà. Et là, Fred qui lui dit « Tu veux que je t'en mette une nouvelle ?» C'est un peu délicat dans le noir.
Sa femme s'appelle Winifred. D'où le diminutif de Fred.
Et puis elle s'approche de lui. Puis lui, ce qu'il entend, c'est « mur, mur, mur ».
Ben oui.
Alors là, il dit « Quoi ?» Alors Fred lui parle et lui, il entend toujours mur.
Mais oui, combien de fois les piles de son appareil sont mortes. Oh, c'est incroyable.
Oui, oui.
Incroyable.
Et puis l'autre, et puis qui dit... Et là, le narrateur qui dit, moi, cherchant à gagner du temps, Fred, mur, moi, essayant de deviner le contenu du message. Ah, oui. Oh, d'accord. Fred, surprise, quoi? Moi, oui. Qu'est-ce que t'as dit? Et là, Fred lui dit, mais pourquoi t'as dit d'accord si t'as pas entendu ce que j'ai dit? Et là, il y a le narrateur qui dit, attends que je mette mon appareil. Puis là, oui. Fred qui dit, non, c'est pas la peine, c'est pas important.
On n'est pas un quiproquo quoi après, hein, c'est incroyable.
Alors Gérald, merci beaucoup. Je rappelle le titre du livre que vous nous avez présenté, La vie en sourdine, de David Lodge, L-O-D-G-E. Et on se retrouve le mois prochain?
Oui, bien sûr.
Alors, passez une excellente fin de journée. Merci d'avoir
été
là.
Au revoir.
Chapitre 2. L'invité spécial.
Avant de vous présenter Abla Faroud, je voudrais, s'il vous plaît, qu'on écoute l'extrait, le début en tout cas d'une chanson, parce que vous allez voir, il y a un lien très direct, Abla, entre cette chanson et votre livre « Splendide solitude » dont on va parler aujourd'hui.
Pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est l'amour sans flambeau.
J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre et frapper à mon cœur. C'est frapper au tombeau. N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, à toi si je t'aimais.
Au fond de ton silence, écoutez que tu m'aimes. C'est entendre le ciel sans y monter jamais.
Bonjour Abla Faroud.
Mais c'est trop beau ça, c'est
ça
quoi?
Vous touche. Mais ça a été écrit par l'une de vos auteurs préférés, Abla Faroud, c'est Marceline Desbord-Valmore.
Mais voyons donc.
Ça s'appelle Les Séparés. Oh. Et là, c'était chanté entre autres par Julien Clerc et Isabelle Boulay. Je dis entre autres parce que Julien Clerc l'a chanté tout seul, Isabelle Boulay l'a reprise toute seule dans son. Et là, ils ont chanté ça ensemble.
Et... C'est tellement beau.
Oui.
Oui. Nous, on commence fort. Là c'est, si je me mets à pleurer, là, ce sera de votre faute.
Oui, mais Abla, en même temps, je voulais vous dire que c'est comme ça que votre livre « Splendide solitude », c'est dans cet état-là que cela m'a laissé. Et comme disait Bernard Démé, il faut aimer le mal que nous font les chansons. Et j'ai adoré le mal que m'a fait votre livre « Splendide solitude ». Vraiment. Vous savez, on va parler beaucoup de solitude, comme son titre l'indique. Et comme ça, je vais vous laisser le temps un petit peu de vous remettre de vos émotions à blanc. Mais regardez, tenez, un petit Kleenex, hop là. Et à un moment donné, on vit tous des moments où on est seul, hein, dans la vie. On vit tous des moments pour des raisons différentes. Dans votre cas, on va en parler. Vous vous retrouvez seul parce que le père s'en va, puis les trois enfants finissent par s'en aller. Puis tout d'un coup, il y a cette grande maison vide et ce piano inutile. Bon, tout ça. Et on a tous des moments comme ça. Et moi, j'ai vécu un grand moment comme ça. Et je disais toujours à qui voulait l'entendre, il n'y a pas un livre, il n'y a pas un film, il n'y a pas une peinture, il n'y a pas un poème qui arrive à la cheville de la douleur et du rien que je ressens. Et là, je ne pourrais plus jamais dire ça parce que je l'ai trouvé.
Oh, waouh! Mais qu'est-ce que j'ai
mais
bien
non,
fait
mais
de venir
vrai.
Ici aujourd'hui.
Mais c'est vrai, mais c'est
non,
vrai.
Mais c'est Abla, touchant ce que vous dites là.
Mais j'espère, parce que...
Oh là là.
Voilà, j'ai... Bon, et en plus, on va en parler aussi, mais ce n'est pas le seul livre de vous que nous ayons enregistré ici, mais celui-ci a déjà quelques années et on s'en fout parce qu'il est magnifique et que c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé autant. Abla Faroud.
C'est un livre, c'est vrai, et je suis contente que vous parliez de ce livre-là précisément parce que personne n'en parle. Moi, j'ai des livres qui ont très, très bien marché. Ma vie est, tu sais, la vie est bonne pour moi, tout ça, mes livres se vendent. Mais celui-là, on dirait que déjà le titre fait peur.
Ah oui.
Splendide solitude, même s'il y a splendide avant solitude, la solitude, il ne faut jamais mettre ça à moins de 100 ans de solitude. Ça, ça fait
oui.
drôle. Ça,
oui.
ça fait plus
oui,
drôle.
Oui, oui, oui.
Mais solitude, il faut, je le dis à tous les auteurs qui nous écoutent, s'il y en a, jamais mettre solitude sur le comme titre parce que ça fait peur aux gens. Et pourtant, quand les gens lisent ce livre, comme vous, ils sont très touchés. Puis
mais on se dit, on n'est pas seul. Moi, tout d'un coup, je fais comme, ah, oh, mais tout ce que j'ai vécu, mais alors, mais j'ai, parce que moi, il y a des fois où on a l'impression d'être dingue hein, quand on vit ce rien de la solitude.
Mais c'est pour ça qu'on écrit aussi.
Mais oui.
On écrit justement parce que pour revisiter ces moments-là oui. qu'on croit avoir vécu seul, et puis tout d'un coup, les gens nous en parlent comme si c'était eux qui avaient écrit
mais
le
oui,
livre.
Mais
c'est
oui.
ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que j'aime écrire.
Et, ici, c'est la page quoi ? La page 178. À un moment donné, vous tombez sur une femme, je pense. Est-ce que c'est celle qui est avec son fils ? En tout cas, je ne me souviens plus. Et puis, donc, vous leur demandez, mais est-ce que c'est votre fils avec qui vous mangez là ? Et puis, elle dit oui, une fois par mois. Et puis elle dit, oh ben moi, enfin vous, donc, enfin, ou la narratrice dit, oh ben moi vous avez de la chance parce que moi, mes enfants, puis elle dit, oh mais vous êtes bien trop jeune, ça va venir beaucoup de plus tard. Et puis, elle dit, oh je sais, on se sent bien seul à votre âge, tout nous quitte, enfants, jeunesse et souvent mari, et comme si ce n'était pas assez, il y a ce retour d'âge qui n'arrête pas de nous retourner à l'envers et à l'endroit et encore à l'envers. Vous verrez, la vieillesse, c'est beaucoup plus simple. Et la narratrice qui dit seulement, merci madame, excusez-moi encore. C'est une, je vous jure, parce que le corps, il y a des moments où vous allez, c'est
parce que c'est cette femme là, elle doit
oui.
faire le deuil de tout.
De
en
tout.
En fait, c'est pas un livre sur la solitude, ben
non.
c'est sur la
oui.
solitude
oui.
finalement, mais c'est sur les deuils que toute personne
oui.
doit faire. Elle fait le deuil de son mari, de ses enfants. Ils sont pas morts, mais ils sont loin
oui.
d'elle.
De
et
sa
surtout
féminité.
De son corps.
De son corps, oui. Ah oui, ah oui. Ah
c'est,
oui, ah
c'est,
oui.
C'est tous ces deuils, c'est l'apprentissage des deuils. Mais en fin de compte, ça va vers la lumière quand même, non?
Ah oui, oui, absolument.
Ça
ben
va,
oui.
ça va.
Ah
ça,
oui,
ça,
oui, oui. Alors attendez, un autre petit extrait, parce que par rapport au corps, parce qu'évidemment, elle va de médecin en médecin, elle a mal partout.
Ça, c'est drôle, cette partie-là.
Oui.
Et alors, est là, avec les médecins, là.
Puis là, elle dit, mais je m'en crise de mon cœur et de mes os, j'aurai jamais 80 ans, c'est maintenant que je veux pouvoir vivre un peu sans avoir mal partout. Génial. Mais non, mais vraiment. Parce qu'elle dit au médecin, mais alors qu'est-ce que je fais? Ben, il dit, vous prenez ce que je vous ai prescrit, les hormones, les antidépresseurs. Elle dit, oui, mais c'est pire qu'avant, je me sens encore plus mal. Et lui, il fait, et je peux aller souffrir en paix, mais vous ne pouvez rien faire pour moi, elle lui demande. Donc, c'est, en tout cas, c'est parce que c'est vrai, vous avez raison, j'ai beaucoup souri. Je ne peux pas dire que j'ai ri, mais j'ai beaucoup, parce qu'évidemment, des
surtout,
passages
c'est,
comme
c'est
ça,
toi
c'est
drôle. Médecins, avec les médecins, c'est quand on est en cette période-là,
oui.
pré-ménopause, là, c'est
oui,
épouvantable
oui,
à vivre
oui,
quand
oui,
on la
oui.
vit durement.
Oui, oui.
Il y en a qui la passent plus...
Comme une fleur, mais quand en plus on la vit... comme vous l'a dit d'ailleurs très très justement, il y a une amie à vous hein, qui vous a dit quand vous avez sorti ce bouquin, comment as-tu fait pour mettre autant de mots sur du rien ? Je cherche
ah, oui,
son...
oui, oui, oui.
Vous vous
oui,
souvenez
c'est
ça, de ça ?
C'est un auteur qui s'appelle que vous connaissez, Larry
oui.
Tremblay.
Ah oui, oui, oui.
Larry
oui.
Tremblay a lu mon livre et il me téléphone. C'est un ami.
Celui qui a écrit L'Orangerie. Hein,
oui, 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 celui qui a... oui, exact. Et il a fait beaucoup de pièces de théâtre.
Oui,
on,
oui,
était,
oui,
on
oui.
a fait des tournées
aussi,
ensemble.
D'ailleurs.
Oui, moi aussi. Puis là, il a dit, mais c'est incroyable. Comment t'as fait ce livre-là? T'as écrit sur rien.
Ben, c'est ça, exactement. Exactement.
Et puis il dit, mais c'est à chaque page, c'est beau. On tourne la page
ah, ouais.
et on veut encore. Mais il dit,
ouais.
mais c'est quoi l'histoire, en tout cas? Et il parlait de dentelle. Il
ouais.
parlait de, il a même parlé de dentelle. Moi, la dentelle, je trouve ça long à faire et beau. Mm-hmm. Je trouvais que c'est une belle qualité.
Ah ben absolument. un autre extrait justement par rapport à Splendide Solitude, c'est au tout début du livre, si vous me le permettez. Mm. Ma bataille a quand même droit à un nom. Je l'ai baptisée avec eau et sang, je l'appellerai Splendide. Splendide, aussi beau en anglais qu'en français. Splendide Solitude, joli nom pour une bataille à finir, une bataille qui finira avec moi. Quel luxe de n'avoir rien d'autre à faire. Quel luxe d'avoir une maison, de pouvoir s'enfermer dans sa maison avec frigo plein, téléphone à portée de main, télé, radio, chaîne stéréo, livre, ordinateur performant, sauna, crème de beauté, potions, herbes, pilules, tout pour la gestion et la dégénérescence, des plantes pour rappeler le vivant, des tableaux pour le regard, un chat pour la douceur. Le piano est encore là. J'ai dit à l'aîné, pars, si tu veux partir, pars, emporte tout ce que tu veux, mais le piano restera là. J'ai dit au deuxième, pars, si tu veux partir, pars, mais le piano restera là. J'ai dit à la troisième, le piano a faim de caresse. Vous savez que vous allez le relire, Abla, votre livre, et vous allez... Non, mais non, c'est, mais je... c'est une merveille d'écrire comme mais... ça. Marie-Christine, vous pouvez...
Je crois que oui, oui, je vais vous le voler.
Je peux vous dire qu'il y a la
queue. Je crois qu'il veut... c'est... Même s'il a eu un... il a une carrière difficile, comme je disais au début, mais les éditeurs VLB vont peut-être rééditer.
Le rééditer.
Peut-être. Hein. En tout cas, ils veulent, on va voir.
Ben, en tout cas, s'il y a besoin d'un coup de main, d'un mot à écrire,
on va faire appel à vous.
Oh mon Dieu, que vous pouvez compter sur moi. Il me reste combien de temps, mon ami, si des fois je voulais lire d'autres extraits regardez toutes les, parce que là, il faut voir, il y a plein de petits sur le deuil, c'est magnifique. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, le cri sur une banquette. Ah, ça, c'est tellement beau.
Ah, on ne se souvient plus.
Pourquoi, je dirais pourquoi jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jour où ma langue séchera dans ma bouche, je dirais pourquoi, jusqu'à ce que mon gosier éclate, et personne ne me répond et personne ne me répondra. Je veux savoir, Calice d'Ostie, m'entendez-vous? Je veux savoir, je veux pas mourir, pas avant de comprendre. À l'envers d'une feuille raturée, illisible, j'ai trouvé ces quelques mots sur la banquette du café, où j'allais presque chaque jour, écrit d'un trait, avec force et violence, d'un souffle. Aucune ponctuation, aucune majuscule. Les lettres couraient sur le papier et voulaient toucher le ciel. Elles retombaient pourtant impuissantes. Jusqu'à la fin de la feuille, sans point final, je ne sais pas de qui est cette phrase, ce cri, qui était passé là avant moi, qui disait ce que j'aurais pu crier mot à mot, mot à mort. J'ai tout recopié dans mon cahier de citations et j'ai laissé la feuille sur la banquette, on ne sait jamais. Quelqu'un d'autre pourrait en avoir besoin, s'y reconnaître, écrire ces mots dans un cahier, les crier dans le noir, sentir que quelqu'un d'autre est passé par là. Qu'on n'est pas seul. C'est beaucoup d'émotions en studio, Abla. Vous avez
oublié. Parce que
j'ai
oublié tout ça. Vous lisez, puis c'est comme si j'entendais quelqu'un parler. Je sais même pas que c'est moi qui l'ai écrit. Je vous jure, je fais pas de comédie là.
Parce que je vous garantis que pour nous, qui lisons des livres tout haut, avoir ces mots-là. C'est du bonbon, c'est du foie gras, c'est du sublime, quoi, c'est du rare. C'est vraiment magnifique. Et Abla, je voudrais préciser que nous avons d'autres livres de vous aussi, ici, disponibles. Nous avons Le sourire de la petite juive, dont Micheline Tremblay est venue nous parler. Nous avons Le bonheur à la queue glissante aussi.
Oui, bien sûr, c'est mon best-seller.
C'est ça, exactement.
C'est mon long-seller.
Voilà, où là c'est votre maman qui était là.
Oui, je prends la voix de ma mère, oui.
OK, d'accord. Et puis, bon, il nous reste un petit peu de temps. C'est pas grave pour la musique là derrière. Nous allons aller jusqu'à la fin de notre demi-heure avec vous, Abla, parce que c'est tellement plaisant de vous parler. Je demande toujours à mes invités de nous partager une lecture. Et vous m'avez parlé de Métis Beach, de Claudine Bourbonnais.
Mais, oui, Métis Beach, parce que si j'ai eu le bonheur, si on veut, de lire les premières, tous les balbutiements de ce livre-là.
Oui.
Et vraiment, si on veut devenir auteur, ouais, il faut vraiment ressembler à cette Claudine Bourbonnais qui a écrit. On est tous comme ça, remarquez.
Ouais,
là, c'est
ouais,
pas,
ouais.
Quand on veut finir par devenir et faire un ouais livre, il faut une patience d'ange et elle l'a eu.
Okay.
Et elle a fait un très beau livre avec une histoire.
On est aux États-Unis.
Oui,
hein,
ça part d'ici, ça va aux États-Unis. Elle est vraiment... C'est une fille qui a une imagination, une belle imagination, très, mais aussi politiquement très... elle lit beaucoup, elle s'informe. Ben,
on parle de la journaliste et
la
journaliste,
elle est déjà,
qui est sur
donc,
RDI,
elle a donc
un ouais,
background quand même qui est quand même solide, ce qui est quand même... elle ne parle pas à travers son chapeau. Là,
non, c'est dire, ça.
Mais en même temps, elle a beaucoup de fantaisie et tout. Elle a créé des beaux personnages. Et j'ai eu le bonheur de l'aider, si on veut, d'être sa première lectrice.
Oui.
Et
oui.
Avec, pas fait du coaching comme tel, mais quand même, c'est mon métier. Je l'ai fait à l'École nationale de théâtre. Je peux le faire avec d'autres, mais elle, c'était d'abord une amie. Alors, comme elle m'a demandé, je lisais, puis je notais, on parlait. Et donc, c'est un livre à lire parce qu'il est très, très différent de tout ce que j'écris moi, par exemple. Mais je l'aime autant.
Métis Beach,
oui.
Et quand on parle, parce que est-ce que c'est une parodie des États-Unis? Parce que
non, pas vraiment. C'est vraiment elle parcourt. C'est un personnage qui dit qui va aux États-Unis puis qui pour des raisons X. C'est pour ça qu'il faut lire le livre.
Ok. Et puis bon, il ne nous reste plus qu'une petite minute. Je voudrais juste signaler à nos auditeurs que vous venez de finir un autre livre. On pouvait pas en parler beaucoup parce qu'évidemment avant qu'il est même pas encore sorti. Une fois qu'il va être sorti, ensuite on va le lire.
Oui.
Et je vais me mettre sur les
rangs. Ah, je reviendrai, tiens.
Oui. Et comme ça vous pourrez. Mais c'est pour ça que je vous avais dit non, on pourra pas en parler tout de suite.
Faut dire le titre au moins maintenant.
Allez, mais absolument, on y va.
Toutes celles que j'étais
de Abla Faroud que je recevais aujourd'hui. Abla, merci infiniment pour ce splendide Solitude qui va faire du bien à beaucoup de femmes. Allez
merci
vous chercher ce livre. Voilà. Maintenant, là, je peux vous dire qu'il y a la queue dans le couloir pour l'emprunter, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Abla Faroud.
Je vous en prie.
Merci.
Ça fait plaisir.
Vous écoutez À Livre Découvert avec Clotilde Seil et ses invités. Chapitre 4. Le bénévole du jour.
Le bénévole du jour, je sais. On a fait une erreur quand on l'a préenregistré.
C'est pas ça qui me fait sourire. Mais non, c'est pas ça.
C'était quoi, Marie-Christine Morin?
Ça fait un petit peu le plat du jour. Je suis très fière.
Mais oui, mais d'ailleurs, au début, je parle du menu, de la table de matière. Oui, oui, absolument. Alors, vous n'êtes pas le dessert, mais je dirais que vous n'êtes pas le plat de résistance. Comment je vous dirais comment on appelle ça, là, le petit calva?
L'amuse-bouche, peut-être,
non,
ou l'amuse-gueule.
Non, vous savez, là, le petit calva, voyons donc, à comprendre.
Le trou normand.
Voilà, mais je dirais plutôt le trou parisien.
C'est ça. Le petit ballon de rouge.
Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Le petit ballon de rouge, oui, alors vraiment. Mais alors vous, c'est plus le pied que le ballon quand même. Hein. C'est pas, vous ne faites pas du tout dans le... Marie-Christine, vous êtes une habituée bénévole.
Et oui.
Vous donnez beaucoup, beaucoup de votre temps, je dois le dire.
Ça.
Oui,
j'aime
vous aimez ça,
ça
mais c'est fun parce que du coup, vous sortez beaucoup de livres. Et il y en a un aujourd'hui dont vous aviez envie de nous parler.
Oui, alors un livre qui s'appelle « Les termes du paradis » d'Akli Tadjer.
que je ne connaissais pas comme auteur.
On va peut-être épeler le... d'abord les termes. Il y a une
subtilité. Voilà, donc c'est les termes THERMES. Donc voilà, c'est pas les termes THERMES.
Mais c'est comme les termes comme les piscines thermales et tout ça.
Voilà,
c'est plutôt
comme les spas.
Les spas, d'accord.
Voilà,
c'est d'accord.
Plus ça. Et donc Dakli Tadjer. Alors ça s'écrit A K L I T A D J E R.
En deux mots.
Voilà, et Dakli, c'est un homme. Contrairement à ce que j'aurais pu penser au début.
Ben oui, moi aussi, je pensais que c'était une bonne femme qui avait écrit ça.
Non, c'est un monsieur. Moi, je pensais ça parce que quand j'ai commencé la lecture pour Vues et Voix, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était écrit par une femme. Et puis, je me suis rendu compte que non, c'était un monsieur.
Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce bouquin-là ?
Alors, qu'est-ce que c'est que ce roman-là ? Alors, c'est un joli roman, dans le sens où c'est un roman frais, facile à lire, mais dans lequel chacun des personnages est attachant. Donc, on passe un bon moment, ce qui n'est pas si désagréable.
Oui.
Pourtant, alors, c'est l'histoire d'Adèle Reverdy, une jeune femme qui, lorsque le roman commence, s'apprête à fêter ses 30 ans. Alors, d'autres s'en réjouiraient, mais la pauvre Adèle, elle s'en désole littéralement.
Ah.
Non pas parce qu'elle a peur de vieillir, mais plutôt parce que chaque année passée la ramène à une dure réalité, c'est-à-dire au fait que depuis l'adolescence, sa vie sentimentale n'est qu'une succession d'échecs et de déceptions.
Elle aussi.
Voilà. Elle aussi. Donc, le fait... Pourquoi c'est parce qu'elle est bourrée de complexes, cette pauvre Adèle. Alors, évidemment, elle manque totalement de confiance en elle. Et d'ailleurs, elle est bourrée de complexes, mais... À cause de quoi ?
À tort ?
À tort, oui, bah parce qu'elle se comme tout le monde, enfin, comme beaucoup. Elle se trouve trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela. Donc, voilà, elle manque totalement de confiance en elle. Alors, évidemment, elle n'attire que des tocards. Les hommes intéressants se détournent d'elle. Et ce qu'il y a de très drôle, si on peut dire, c'est qu'ils se détournent d'autant plus d'elle quand ils apprennent son métier. Parce que figurez-vous que la belle Adèle est certes directrice chef d'entreprise, mais d'une entreprise de pompes funèbres.
Ah !
Alors évidemment, quand on annonce ça, c'est pas très glamour, c'est sûr. Et puis ce métier, en fait, elle l'exerce certes avec beaucoup de talent, parce qu'il faut quand même avoir...
Est-ce qu'elle les prépare, tout ça ?
Non. Elle est directrice de l'agence de pompes funèbres qu'elle a récupérée de ses parents. C'est pas un choix. En fait, c'est aussi quelque chose qui est assez douloureux à vivre pour elle, parce que c'est un métier qu'elle exerce un petit peu en hommage à ses parents disparus, et surtout en hommage à son père. Parce qu'elle se sent toujours un petit peu, quelque part, responsable de leur disparition. Mais je n'en dirai pas plus pour que les lecteurs puissent découvrir eux-mêmes. Donc, vous allez me dire, pas très joyeux tout ça, quand même, comme entrée en matière, bof, bof, bof. Mais si, en fait, c'est un livre très joyeux, parfois même très drôle. Bon, d'abord parce que le style de l'auteur est enjoué, dynamique, et que Adèle parle d'elle et de la vie avec autant de lucidité que d'humour. Donc ça donne quelque chose de très emballé, de très emballant, notamment quand elle dresse des portraits. Alors par exemple, quand elle parle de sa meilleure amie, Leïla, qui, elle, est thanatopractrice. Nous y voilà.
Ok, là on est dans la préparation.
Voilà, dans la préparation. Là, je peux vous dire que c'est effectivement un excellent métier pour faire fuir les hommes. Ça, il n'y a pas de problème. À elles deux, elles font la paire. Et puis, bon, elle a une façon aussi de parler de sa sœur Rose, qui est médecin, brillante en tout, mais tellement superficielle, tellement plate, comme on dit ici au Québec. Ou alors quand elle dresse le portrait de quelques ex, etc. Donc, effectivement, non, c'est très drôle. Et puis, elle a un regard assez incisif aussi sur la vie. Donc, rien de triste là-dedans. Et puis bon, très rapidement quand même, on comprend que ben voilà, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas simplement les histoires tourmentées des complexes d'Adèle. C'est-à-dire que très vite, sa vie va basculer à Adèle. Parce que le soir de ses 30 ans, alors que bien évidemment, elle ne s'y attend pas, qu'elle freine des quatre pieds pour aller à son anniversaire, parce qu'elle déteste les anniversaires et surtout les siens, évidemment, eh bien, la voilà qui tombe raide dingue amoureuse.
Oh non.
Si, d'un sublime Africain, un ancien trapéziste devenu masseur à la suite d'un accident lui ayant fait perdre la vue.
Donc, décidément.
Voilà, oui, mais décidément, mais non. Il faut dire que leur rencontre, elle n'est pas banale, parce qu'elle, évidemment, avec tous ses complexes, elle n'aime pas danser. Lui, ça lui est pas très facile. Et puis, je crois que ce soir-là, il n'avait pas très envie de venir non plus. Mais résultat des courses, elle a mal aux pieds. Il lui fait un massage des chevilles et surtout des orteils à lui faire perdre la tête. Et d'ailleurs, vu comme c'est décrit, je la comprends. Mais ne me demandez rien, je ne livrerai rien.
D'accord, d'accord.
Donc, bref, voilà que notre Adèle, timide et complexée, va trouver en elle toute la force et toute l'audace nécessaires pour tenter de conquérir le beau Léo. Et là, le roman change de ton. Il y a toujours de l'humour, ça, pas de souci, mais aussi beaucoup de finesse et de sensibilité. Et puis, beaucoup de sensualité, sincèrement.
Okay.
Mais toujours dans... Il n'y a ni trop, ni pas assez. Pourquoi ? Parce qu'il est vraiment la question de vrais sentiments, de fragilité, de blessure, et dont il s'agit d'apprendre à parler à cœur ouvert, et parce que Léo ne voit plus désormais qu'avec son cœur et le bout de ses doigts, dit-il un jour à Adèle. Alors, est-ce qu'elle va arriver à ses fins ? Je ne vous le dirai pas non plus, mais cette quête va vraiment la révéler. Au départ, elle l'avoue, c'est justement parce que Léo ne la voyait pas, qu'elle a osé l'aborder, etc. Mais continuer leur histoire, c'est accepter d'aller bien au-delà des apparences. Il lui faut offrir bien davantage pour inciter Léo à peut-être se laisser conquérir et à accepter l'idée qu'on peut encore l'aimer. Car lui aussi, bien sûr, a vécu bien des désillusions. Et je vous dirais seulement qu'elle ira très très loin, Adèle, pour prouver la sincérité, ou même mieux, l'évidence de son amour pour Léo. Et même jusqu'à risquer très gros. Mais quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Alors en fait, pour conclure, je crois que la citation de Romain Gary que l'auteur a choisie en tête de son roman résume assez bien ce qu'Adèle a enfin compris en côtoyant Léo.
Cette citation qui est...
Il ne faut pas avoir peur du bonheur, c'est seulement un bon moment à passer.
Ah, c'est beau. On a le temps pour un petit extrait. Vous nous en lisez un petit bout?
Allez, d'accord. Un petit bout.
Oui. On a une minute devant nous, il n'y a pas de problème.
Ça devrait aller.
Ben oui.
Pour la première fois, je suis à son bras, comme une vraie fiancée. Et comme il est conseillé sur les sites pour aveugles, je lui décris la vie autour de nous. Le gris du ciel faisant concurrence avec le gris des toits d'ardoise de la rue Lafayette. Une légion de petits nuages blancs descendus des hauts de Montmartre, chahutant au-dessus de nos têtes. La vitrine d'une boutique de fringues où sont exposées les premières soldes de l'hiver. Des tout jeunes enfants roms à genoux, comme des pénitents mendiant aux terrasses des cafés. Et sur l'autre trottoir, l'enseigne du bar du général visible jusqu'à la cité Paradis. Je sens que j'énerve. Léo s'arrête brusquement de marcher, se tourne vers moi et il dit « Quand je suis avec toi, je ne vois que toi. Tout le reste, je m'en fous complètement. » Les larmes me montent aux yeux. J'aimerais le serrer dans mes bras, l'embrasser et lui dire que moi aussi, tout pareil. Je ne vois que lui lorsque je suis avec lui. Mais l'émotion me paralyse et je reste sans voix.
Oh, très, très beau. Merci beaucoup, Marie-Christine. Marie-Christine Mora, mesdames et messieurs, qui est venue nous parler de ce livre dont elle va nous redonner le titre et le nom de l'auteur.
Les termes du paradis, d'Akli Tadjer.
T-A-D-J-E-R. À une prochaine fois, Marie-Christine.
Merci,
merci beaucoup.
Au revoir.
Chapitre 5. De bouche à oreille, une page de littérature.
Oh là, mes amis, j'ai plein de choses à vous proposer. D'abord, vous faire un peu la bande, une petite bande-annonce pour dérouler le tapis rouge à une bénévole dont ce sera la première visite. Elle s'appelle Nicole Châtelain. La semaine prochaine, elle va venir nous parler d'un livre qui s'intitule « Tu choisiras la vie » de Delphine Renard. Alors, le thème, il est le suivant. On va aller droit au but. Comment survit-on à un attentat ? Delphine Renard, elle avait 4 ans. Le 7 février 1962, lorsqu'une bombe a explosé à sa fenêtre. Il s'agissait des tueurs de l'OAS. On est après la guerre d'Algérie, juste à la fin de la guerre d'Algérie. Il s'était trompé d'étage. Il visait le voisin du dessus, nul autre qu'André Malraux, l'écrivain ministre qui avait mis de si beaux terroristes, d'ailleurs, dans ses romans. Et 50 ans après cette tragédie, la petite Delphine Renard a voulu sortir de son silence. Elle a voulu témoigner pour dire comment elle a d'abord retrouvé la vue grâce à pas mal de gens qui lui ont permis de se faire opérer à New York. Et puis pour raconter qu'elle l'a reperdue malheureusement ensuite, comme elle dit insidieusement, en 2 ans, entre 28 et 30 ans. Noire, j'étais critique d'art. le destin a de ses ironies. C'est donc ce livre qu'a lu pour vous Madame Châtelain, Nicole Châtelain, Tu choisiras la vie de Delphine Renard. J'en ai un tout petit extrait ici. Il y a 50 ans, ma chambre d'enfant a explosé. J'avais 4 ans et demi. La bombe, posée par des activistes de l'OAS sur l'appui de ma fenêtre, était destinée à André Malraux, alors ministre du général de Gaulle, dont le gouvernement était en train de mettre fin à 130 ans de colonisation en Algérie. Il habitait les étages de notre maison, mais il était absent à ce moment-là. Blessé dans l'attentat, j'ai perdu un œil, puis deux. J'ai dû faire avec pour grandir quand même. La trajectoire que m'avait préparée ma famille a donc buté sur l'impensable. Il m'a fallu inventer ma propre façon d'aller vers la vie. Voilà, extrait de « Tu choisiras la vie » de Delphine Renard, qui sera présenté la semaine prochaine par Nicole Châtelain. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je recevais France Castel. France est venue avec sous son bras un livre de Francine Ruel. Ma mère est un flamant rose, qu'elle m'a laissé d'ailleurs, en me disant « Tiens, tu liras ça, c'est vraiment très bon ». Et non seulement je l'ai fait, mais en plus je me suis dit « Quelle bonne idée ce serait d'inviter Francine Ruel ». Francine Ruel a accepté, elle sera là la semaine prochaine avec nous à l'émission « Un livre découvert ». Laissez-moi vous lire simplement la quatrième de couverture de « Ma mère est un flamant rose ». Elle était minuscule et elle prenait toute la place. Avec sa voix rauque de fumeuse, elle en imposait du haut de son petit 5 pieds 3, juché en permanence sur des talons aiguilles. Elle passait ses journées debout à travailler sans relâche et ce n'est qu'une fois à la maison, brisée de fatigue, qu'elle acceptait de descendre de cette estrade qui semblait lui permettre de tout diriger. L'homme de la maison, c'était elle, Mado, ma mère. Je l'admirais, je la craignais, je l'aimais énormément. Je lui en voulais d'être trop originale, pas tout à fait comme les mères de mon entourage. Je lui reprochais d'être à la fois la mère et le père, puisque celui-ci avait quitté la maison alors qu'elle avait 32 ans et 5 filles. Dans ce livre, par de petits tableaux livrant les impressions qui me restent en mémoire, j'ai tenté de raconter Mado, ma mère. Elle nous racontera Mado, sa mère, la semaine prochaine, Francine Ruel. Et puis, comme je le fais avec tous les auteurs, comme je l'ai fait un petit peu plus tôt avec Abla Faroud, j'ai demandé à Francine Ruel qu'elle aussi arrive avec un livre sous son bras. Et elle a décidé d'arriver avec un autre énorme coup de cœur de Clotilde cette année 2015. Ce livre, d'ailleurs, que j'ai moi-même aussi entre les mains, ce livre de Grégoire Delacour qui s'intitule « On ne voyait que le bonheur ». Grégoire Delacour, c'est celui à qui on doit le succès mondial « La liste de mes envies » que vous pouvez également vous procurer au SQLA. Et bien, elle aussi, Francine Ruel, a été emballée par ce livre-là dont j'ai envie de vous lire un extrait. Tiens, ici, il me semble que j'avais noté la page 77. Je m'y rends tout de suite et me voilà. Donc, ça s'appelle « On ne voyait que le bonheur ». Sur les photos, on ne voit pas la cuisson du poisson, on ne voit pas les compliments menteurs, le bar était parfait. On voit notre nouvelle voiture, on me voit, moi, couillon, à côté de la nouvelle voiture, on voit le vélo Barbie à trois roues, on voit Joséphine et Nathalie dans la baignoire, on voit Anna et son mari Thomas dans notre petit jardin près d'une jacinthe fanée. On ne voit pas ma mère, on ne voit pas les mensonges, on ne voit pas le bébé que Nathalie n'avait pas voulu garder un an plus tôt parce qu'elle ne savait plus si elle m'aimerait toujours. On ne voit pas cet amour-là, bref et infini, immense et tragique. On ne voit pas mes larmes d'alors, mes nuits d'alors sur le canapé, mes insomnies d'alors, le mal qui infusait alors, le fauve qui se réveillait. On ne voyait que le bonheur. Voilà, extrait de ce livre-là, « On ne voyait que le bonheur » de Grégoire Delacour, dont viendra nous parler aussi la semaine prochaine, Francine Ruel.
des nouvelles et des livres.
Comment rester insensible à ce qui se passe au large de Lampedusa, notamment donc au large des côtes italiennes? Vous savez, on parle de ces migrants qui montent sur des bateaux de fortune et qui meurent pour la plupart entassés dans ces bateaux-là, ces radeaux-là, ces espèces de matelas pneumatiques. Je vous lis, entre autres, ce que je ne me souviens plus dans quel article c'était ça, si c'était dans la presse ou en tout cas on racontait ce qui s'est passé notamment en ce 11 février. L'histoire dans sa première version était déjà dramatique. Je parle de 11 février 2015. 29 migrants morts de froid au large des côtes de la petite île italienne de Lampedusa qu'ils tentaient de rejoindre depuis la Libye sur un bateau pneumatique malgré des creux de 8 mètres et des vents de 120 km/h. Arrivés sur le lieu du drame 6 heures après le premier appel de secours, dimanche 8 février, les deux vedettes des gardes-côtes n'ont pu ramener que 76 survivants sur les 105 passagers. 7 personnes avaient déjà perdu la vie sur leur embarcation de fortune. 22 autres succomberont pendant le transport, mais le bilan mercredi 11 février apparaissait beaucoup plus lourd. Les sauveteurs ont en effet constaté que 2 autres bateaux pneumatiques se trouvaient dans cette zone à 110 milles des côtes, à bord desquels ils n'ont recueilli que 9 migrants. Un nombre de passagers anormalement bas pour ces embarcations que les passeurs remplissent jusqu'aux limites extrêmes de leur capacité de flottaison. Les témoignages des survivants permettent à présent de tracer les contours d'une tragédie énorme et horrible, selon les mots de Carlotta Sami, la porte-parole en Italie du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, qui évoque 203 victimes. Alors ça m'a donné envie de vous parler, peut-être de vous reparler, peut-être l'avais-je déjà fait il y a un peu plus d'un an, 2 ans presque maintenant, d'Eldorado de Laurent Godet. Godet qui, d'une plume simple, sensible, évocatrice, place l'humain au cœur de ce drame magnifique et cruel. En véritable conteur fictionnel se basant sur une réalité avérée, il narre magistralement et avec force détail le terrifiant voyage de ces otages en devenir otages de passeurs d'abord indélicats. Vous savez, ces capitaines de navires sans scrupules qui n'hésitent pas à les abandonner en pleine mer après les avoir spoliés de tous leurs biens. Ils deviennent aussi les otages de ces carabiniers frontaliers qui sont beaucoup plus zélés qu'humanistes, qui sont toujours promptes à ouvrir le feu sur ces fantômes dépenaillés, affamés, mais des gens qui sont déterminés comme jamais lorsque vient le temps de l'ultime épreuve, la traversée. Évidemment, leur chimère a un prix qui a souvent le goût du sang. C'est un récit coup de poing. Eldorado, hein, je vous rappelle le titre, Eldorado de Laurent Godet, G-A-U-D-E, qui présente 2 trajectoires diamétralement opposées qui sont appelées à se croiser sur fond de croyances africaines. C'est un propos douloureux, mais qui n'est jamais, jamais, jamais larmoyant. C'est un beau et grand bouquin à mettre entre toutes les mains afin d'appréhender peut-être ce fléau, non plus comme un chiffre abstrait, mais comme une tragédie concrète mortellement ancrée en l'humain. Eldorado, tout ce qui brille n'est pas or, des personnages que vous n'oublierez absolument jamais. J'ai un petit extrait pour vous. Il pensa aux corps, il les voyait disparaître de la surface puis continuer à flotter dans les courants sous-marins, comme de grands oiseaux, bras écartés et bouche ouverte, loin du tumulte de la surface. Combien d'hommes étaient en train de mourir ainsi cette nuit, sans cri, sans témoin, avec leur seule peur pour escorte? Il contemplait la mer tout autour de lui et il aurait voulu hurler. Alors il demanda à Matteo de faire retentir la sirène en continu pour que les flots soient remplis de ce bruit, pour dire qu'ils avaient tout fait pour les trouver et pour s'excuser de n'y être pas parvenus. Magnifique bouquin. Procurez-vous ce livre Eldorado, de Laurent Godet, G-A-U-D-E.
Quelques nouveautés en rafale.
Alors, on commencera avec un énorme succès maintenant disponible en format adapté ou encore que vous pourrez vous télécharger comme bon vous semble. Ça, c'est le livre de Guillaume Musso qui s'appelle Central Park. Hein, comme tous les livres de Guillaume Musso, quand ça sort, tout le monde en parle. Un petit résumé, on parle d'Alice et de Gabriel qui n'ont aucun souvenir de la nuit dernière et pourtant, ils ne sont pas prêts d'oublier. Nous sommes à New York, 8h du matin. Alice, jeune flic, parisien, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent, menottés, l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas, ils n'ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines sur les Champs-Élysées, tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible. Et pourtant, les questions succèdent à la stupéfaction. Comment se sont-ils retrouvés dans une situation aussi périlleuse? D'où provient le sang qui tache le chemisier d'Alice? Pourquoi manque-t-il une balle dans son arme? Alors, pour comprendre ce qui leur arrive et renouer les fils de leur vie, Alice et Gabriel n'ont pas d'autre choix que de faire équipe. La vérité qu'ils vont découvrir va bouleverser leur existence. Apparemment, va vous bouleverser aussi, dit un lecteur qui trouve que ce livre est bluffant, magique, extraordinaire. Attends, comment il dit? Du surtopissime. Attention les enfants. Au début, c'est l'histoire de lire quelques pages pour le découvrir et le poser ensuite sur ma table de nuit pour dormir dans les bras de Morphée. Mais dès que j'ai lu les premières pages, c'était reparti pour 6 heures de lecture continue. Je n'ai pas pu détacher mes yeux du roman, dit ce lecteur. Résultat, couché à 4 heures du mat avec des cernes noires sous les yeux et des pépites de bonheur dans l'âme. Je parle de Central Park de Guillaume Musso. Un autre, Monde sans oiseaux, que j'ai lu aussi, une toute petite tablette qui a été écrite, je l'ai ici d'ailleurs sous la main, par Karine Serre. C'est vraiment un petit bouquin, un enchantement. Il y est question dans ce livre de la fille du pasteur, qu'on appelle Petite Boîte d'Os, parce qu'elle est toute maigre, toute maigre, toute maigre. C'est la fille du pasteur, ils vivent dans c'est une communauté qui vit sur les bords d'un lac. On est près d'un lac nordique, on ne sait pas où exactement, quelque part, on ne sait même pas d'ailleurs si c'est sur la terre. Elle grandit dans les senteurs d'algues, dans les senteurs d'herbes séchées, ça devient une adolescente romantique aux côtés de son amie Blanche. Elle va découvrir l'amour avec le vieux Joseph, revenu au pays après le déluge. Et ça c'est important. Enveloppé d'une légende troublante qui le fait passer pour cannibale, parce qu'à cause du déluge, le village au fur et à mesure, s'enfonce dans les eaux. Alors elle, d'ailleurs, elle ne dit pas qu'il s'enfonce, elle dit que les montagnes deviennent de plus en plus hautes, mais évidemment, parce que plus il s'enfonce, et plus les montagnes. Et c'est un livre avec toutes sortes de métaphores. C'est un livre, on a l'impression, on dit « Ah, oh, mon Dieu, quelle belle image !» Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient entacher, c'est plein de boue, c'est plein de boîtes, ça devient tout sale. C'est un livre aussi d'apparence très, très paisible. Mais tout d'un coup, on s'approche de ce lac-là dans lequel cette ville est en train de s'enfoncer. Puis on s'aperçoit qu'il y a des cochons roses fluo qui nagent là-dedans. On s'aperçoit que le fond du lac est plein, plein, plein. C'est une forêt de cercueils. Parce qu'en fait, à chaque fois que les habitants meurent, eh bien, voilà, on fait reposer le cercueil au fond du lac. Et c'est aussi une belle histoire d'amour. Et voilà, où se côtoient la vie, l'amour, la mort, avec cette ville-là qui se noie littéralement dans les eaux. Juste le tout début du livre. Il paraît qu'autrefois, certains animaux traversaient le ciel grâce à leurs ailes. De fins bras couverts de plumes qui battaient comme des éventails, ils glissaient dans l'air à plat ventre sans tomber et leurs cris étaient très variés. Ils étaient ovipares, comme les poissons ou les lézards, et les humains mangeaient leurs œufs. On les appelait les oiseaux. Petite, j'ai demandé à ma mère de me raconter, mais elle a changé de sujet. Cette histoire d'oiseaux, est-elle vraie? Monde sans oiseaux de Karine Serre, S-E-R-R-E-S. Ah là là. Allez, on change complètement de genre avec l'allée du sycomore de John Grisham. Sycomore, S-Y-C-O-M-O-R-E. Il vaut mieux peut-être savoir l'écrire pour le trouver. John Grisham, faut-il le présenter? Un petit résumé de ce livre-là. Je ne l'ai pas lu, celui-ci. Seth Hubert, ou Hubert, ou en tout cas H-U-B-B-A-R-D, qui n'a confiance en personne. Il est atteint d'un cancer et il se pend à un sycomore après avoir laissé un dernier testament. Mais ce document-là va plonger ses enfants désormais adultes, sa femme de ménage noire et l'avocat Jake Briggins dans un conflit juridique aussi brutal et dramatique que le procès pour meurtre qui avait exacerbé les tensions raciales dans le comté de Ford 3 ans auparavant. Alors, pourquoi cet homme-là veut-il léguer presque toute sa fortune à qui ? À son employé. La maladie a-t-elle affecté ses facultés de jugement et quel rapport tout cela a-t-il avec cette parcelle de terre qu'on appelait autrefois Sycamore Row ? C'est un superbe roman où le déchaînement des passions humaines ouvre le chemin d'une possible rédemption, nous dit-on. Je vous rappelle le titre, L'allée du Sycamore de John Grisham. Et puis, j'ai aussi devant moi le livre d'Aline Apostolska sur Jacques Languirand qui s'intitule « Le cinquième chemin ». Aline Apostolska, que je vais tenter d'avoir, ça ne devrait pas être trop compliqué, ce sera beaucoup plus difficile avec M. Languirand. Mais c'est donc cette biographie qu'elle a écrite de Jacques Languirand. Je vous lis la quatrième de couverture. « Je suis fatiguée. Je vous aime et je ne vous oublierai jamais, mais je m'en vais. » Ces paroles, les dernières que Jacques Languirand a prononcées au micro de Par Quatre Chemins le 1er février 2014, marquent le terme d'une étape entamée 43 ans plus tôt. Cette étape-là, radiophonique, elle vous est racontée dans le livre de Aline Apostolska, Jacques Languirand, Le cinquième chemin. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je voudrais remercier mes invités Gérald Cousineau, Abla Faroud, Marie-Christine Mora qui m'accompagnait aujourd'hui. Bonne lecture à tout le monde. Amusez-vous bien et à la semaine prochaine.